France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann.
La compétition est-elle le nerf de nos vies ? C'est notre série de cette semaine. Nous parlerons autant de sport que d'éducation ou encore des théories de Darwin. Et pour ce premier épisode, voici notre question. Le capitalisme a-t-il la compétition pour moteur ? J'ai comme l'impression que le mot compétition est un peu faible pour mes deux invités d'aujourd'hui qui réfléchissent au capitalisme. Mais il faut bien partir de quelque part, quitte à introduire peu à peu d'autres notions que la seule compétition, la domination, voire la prédation, la froideur du calcul, peut-être même, selon un de nos invités réfléchissant au capitalisme, le vice et la perversion. Bonjour Estelle Ferrarez.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université d'Amiens. Vous venez de faire paraître un livre qui dénonce l'hypocrisie des prétentions de certains fabricants à produire éthiquement des objets de consommation et qui dénonce aussi la bonne conscience naïve des consommateurs qui marchent dans la combine. Votre livre s'intitule « Le marché de la vertu, critique de la consommation éthique » et il vient de paraître aux éditions Vrin. Et bonjour Dany Robert Dufour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur honoraire des universités. On vous doit quelques ouvrages bien sentis sur le fonctionnement des sociétés démocratiques et médiatiques, ainsi la cité perverse, libéralisme et pornographie paru en 2009 aux éditions De Noël, désormais disponible en poche aux éditions Folio Gallimard. Mais nous allons surtout aujourd'hui parler de votre livre paru en 2021 chez Actes Sud, Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. Vous y faites grand cas du penseur Bernard de Mandeville, auteur en 1714 de la fameuse Fable des abeilles, paru en réalité en plusieurs éditions. Et selon vous, Dany Robert Dufour, qui avait présenté d'ailleurs une édition des textes de Mandeville. Mandeville avait touché le fond vicieux ou pervers du fonctionnement de l'économie de marché sur fond de rivalité indépassable, rivalité tout à fait féconde selon lui, et ce, précisez-vous, sans la moindre distance critique.
Je vais vous dire à vous, il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté, et j'ai choisi la richesse à chaque fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 dollars et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 dollars. Allez les gars, battez-vous, chopez-les, prenez-lui. Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Mais avant que vous ne partiez de cette salle pleine de vainqueurs, je veux que vous regardiez celui ou celle qui est à côté de vous. Allez-y. Parce que dans un futur, pas si loin que ça, vous serez bien peinard à un feu rouge dans votre bagnole toute pourrie, et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche, avec sa somptueuse femme à ses côtés, qui a des putains de nibards de folie. Et vous, qui sera à côté de vous ? Un vieux gnou dégoûtant avec une barbe de 3 jours qui sera couverte d'un boubou sans manche, coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché Discount du coin, c'est à côté de ça que vous conduirez.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre un extrait du Loup de Wall Street réalisé par Martin Scorsese en 2013 avec Leonardo DiCaprio dans le personnage de Jordan Belfort qui, dans la tirade que vous venez d'entendre, montre à quel point il est mû par l'envie de dépasser son prochain. Il y a une rivalité entre tous les individus dans le système capitaliste dont il semble un adepte. Les travailleurs, les producteurs, tous veulent réaliser le plus grand profit possible. Quant au consommateur, il semble vouloir, nous dit ce personnage, bomber le torse au feu rouge en regardant la voiture à côté avec la femme d'un autre et en se disant quand même « ma bagnole et ma femme, c'est mieux que ce que je vois à côté ». Dany Robert Dufour, pourquoi cette compétition qui peut nous faire sourire ou nous dégoûter un peu est-elle grave ?
Écoutez, je pense que c'est la
première question que se pose le premier penseur de la révolution industrielle anglaise, d'où est sorti ce qu'on appelle maintenant le capitalisme.
Vous parlez de Mandeville, mais est-ce que vous voulez bien qu'avant on attaque le fond, parce que c'est un ensemble de textes ardus, très importants, que vous lisez pour nous. Est-ce que je vais préciser ma question. Pourquoi est-ce que ce que fait là DiCaprio, certes sur un mode évidemment caricatural, pourquoi est-ce grave? Pourquoi n'est-ce pas juste une émulation? Pourquoi est-ce si malsain? Pourquoi s'agit-il, selon vous, de vice?
Il s'agit de vice parce que donc ce sont une libération pulsionnelle des individus, aussi bien dans la pulsion d'avidité que dans la pulsion de consommation. Et donc à partir du moment où on entre dans un fonctionnement pulsionnel, on entre dans une sorte de guerre généralisée de chacun contre chacun. Et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour le lien social que de le définir justement par cette compétition sauvage entre les individus.
En même temps, on peut peut-être dire, je suis pas du tout en train de me faire l'avocat du système, j'essaie de comprendre la profondeur de votre critique. On peut dire que ce vice, il existe dans les individus. L'idée de le réguler, de le freiner, n'est pas simple quand même.
Bien sûr, mais c'est la vieille question philosophique. Si on pense par exemple à la philosophie antique, si on pense à Platon par exemple, ce qu'il appelait l'âme d'en bas, les epitomiai, c'est-à-dire le lieu des pulsions, est un lieu qui évidemment existe chez les individus et qui devait donc être régulé par ce qu'il appelait l'âme d'en haut. Le nous, par exemple. Et donc, c'est une vieille question philosophique, cette régulation pulsionnelle.
Et pour vous, le marché, quel qu'il soit, est un déchargement pulsionnel.
Absolument, absolument. C'est la thèse de Mandeville, les vices privés font la vertu publique. Donc ça procède d'une libération pulsionnelle, et c'est ça qui est absolument nouveau avec la naissance du capitalisme. C'est qu'on passe de modes, qui sont des modes souvent religieux, politico-religieux, théologico-religieux, de régulation pulsionnelle, à un mode de libération
pulsionnelle. Vous trouviez que ça marchait bien avant ?
Pardon ?
Vous trouviez que ça marchait bien
Mais
avant ?
Mais ça n'a jamais bien marché.
Alors j'ai une dernière question, parce que en fait en vous lisant de près là ce livre au titre éloquent Baisse ton prochain pour expliquer le fonctionnement du capitalisme, je me suis demandé si le vrai vice, hein, ce qu'il y a de véritablement pervers, ce n'était pas en réalité le fait de ne pas avouer tout ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire la façon dont le capitalisme ou le marché prend parfois le visage de la vertu, en disant mais non, pas du tout, on fait ça pour que les gens aient suffisamment à manger, aient du choix, pour la liberté, etc. Est-ce que c'est pas ça ce qui, selon vous, est le plus pervers?
Mais bien sûr, c'est laissé pour masquer cette libération pulsionnelle et pour présenter ce fonctionnement sous un mode vertueux. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on reproche à Mandeville.
Oui.
C'est que lui a dit le fond des choses. Il a dit non, vous fonctionnez à la libération pulsionnelle et avec l'exploitation des vices privés. Et cela, on ne lui a pas pardonné, puisque Mandeville est à peu près oublié aujourd'hui ou passé sous silence, et parce qu'il a dit les choses d'une façon un peu trop crue.
Alors on va, je vous le promets, entrer dans le détail des analyses de Mandeville avec cette question latente. Est-ce qu'il dénonçait malgré tout ce qu'il montrait? Ou est-ce que il considérait que c'était très bien? Mais je laisse cette question pour un peu plus tard
très
dans
bien.
L'émission. Estelle Ferrarez, votre livre semble dire la même chose que ce que nous venons d'évoquer dans le dernier point là, du petit échange avec Dany Robert Dufour, à savoir que c'est quand le capitalisme prétend être éthique qu'il est peut-être le plus odieux. Est-ce que je simplifie?
Peut-être pas le plus odieux, mais peut-être le plus efficace. Effectivement, il y a dans le développement actuel de ce que j'ai nommé la consommation éthique, une forme pratiquement d'émulation, alors presque de rivalité, si on veut garder les mots que vous nous avez proposés pour l'émission d'aujourd'hui, autour d'une certaine culture de la vertu, d'une certaine cohérence que nous aurions dans nos choix de consommateurs, et qui fait que nous irions vers des justes choix, ou que nous accepterions de payer un juste prix, et que c'est quelque chose qui donc nous engagerait en tant que sujet moraux, et donc supposerait des formes de retenue, de mesure, et de une façon de brider certains appétits qui peuvent effectivement être nommés vices. Moi, j'ajouterais aussi à celui de la compétition, peut-être celui de la prédation, qui est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement dénoncé, notamment par les tenants de la consommation éthique, c'est-à-dire la prédation comme le moteur.
Ce que c'est la consommation éthique. Donc, par exemple, vous mettriez le bio là-dedans, ou bien les promesses sur les paquets de produits divers, d'avoir fait fabriquer ces produits sans exploitation d'humains, sans exploitation de la nature. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans?
Dans le fait de
proposer cela, qu'est-ce qui vous dérange? Je veux juste dire par là qu'on pourrait se dire l'opinion publique, si cette chose existe, mais quand même on en a quelques symptômes, mais un peu la pression aux marchands, aux producteurs, aux fabricants, pour aller vers cette dimension un peu éthique. Pourquoi c'est mal? Est-ce qu'au contraire, ça n'est pas en train de freiner la prédation capitalistique?
Alors, justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette nouvelle manière de consommer, qui d'ailleurs n'est pas forcément produit... son origine n'est pas forcément dans les entreprises, c'est pas ma thèse, ça peut aussi être le résultat d'une demande. Il y a effectivement une forte saisie par les jeunes générations aujourd'hui de la consommation éthique.
Il y a une demande.
Et qui peut effectivement produire des effets. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que le marché est quelque chose qui fonctionne de manière autopoïétique, c'est-à-dire autopoïétique.
Vous pourriez préciser ce terme.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il est complètement, pour le dire encore d'une autre manière, désencastré de tout ce qui peut être norme morale, et il reste complètement indemne, imperméable à toute tentative d'y injecter des considérations morales, des intentions morales, des normes morales.
Donc, il va en fait convertir des désirs peut-être moraux en des contraintes économiques, il va faire du marketing.
C'est ça,
on ne peut peut-être pas le reprocher. Il n'empêche qu'au bout du compte, on va produire plus éthique.
Oui, sauf qu'à c'est la thèse que je défends, outre le fait que cette nouvelle manière de consommer produit de nouveaux marchés, mais j'allais dire ça c'est relativement banal, on le sait depuis longtemps, le capitalisme s'adapte et crée de nouveaux marchés en permanence, c'est une certaine manière de se relater au monde, et à la nature aussi, qui est engendrée par cette manière de consommer, notamment, c'est ce que j'essaie de démontrer sous le nom de commensurabilité.
Là aussi, je veux bien que vous nous expliquiez ce que vous voulez dire, c'est une thèse très réfléchie, très, très précise, qui est la vôtre. J'aimerais que les auditeurs en aient un petit peu de la saveur.
Oui, tout à fait. Alors, disons que l'idée de commensurabilité ou de commensurabilité généralisée, elle vient de Marx, bien sûr. C'est l'idée que par le marché, tout est rendu commensurable à toute autre chose. C'est-à-dire que le fait qu'on passe par la monnaie permet de transformer chaque objet dans son unicité en quelque chose qui peut être transformé en autre chose. Ça va être ramené à, donc, pour que ce soit possible, à une forme de quantité. Cette façon-là qu'a le marché de fonctionner, tout est échangeable, donc tout est commensurable, tout est mesurable avec le reste. Eh bien, ça, c'est la thèse que je veux défendre, mais pour laquelle je passe également par Adorno, Théodore Adorno, qui a parlé d'une commensurabilité généralisée, donc de quelque chose.
Vous notez ce mot, la froideur généralisée du capitalisme.
Exactement. L'idée de froideur ou de froideur bourgeoise, donc laquelle Adorno se proposait de consacrer un livre. Il est mort juste avant, mais effectivement, Adorno considérait que c'était plutôt la froideur, donc plutôt que le vice, qui serait le moteur ou le ressort du capitalisme. Et donc cette commensurabilité, c'est quelque chose que nous activons en permanence sur le marché, y compris le marché éthique. C'est ce que j'essaye de défendre. C'est-à-dire que avec toute une série d'outils qui nous sont proposés, comme par exemple celui d'empreinte,
empreinte carbone
par exemple, empreinte eau, empreinte écologique, nous sommes perpétuellement en train d'évaluer, et si vous voulez, pour reprendre vos mots, de mettre en compétition un certain nombre de dommages entre lesquels nous décidons afin de faire les justes choix. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte de d'incommensurabilité de ce qui a été fait à cette nature-là, à ces animaux-là, à ces êtres humains-là qui ont été maltraités peut-être dans le mode de production. Et tout étant transformé, on va dire, en externalité, pour reprendre un vocabulaire économique. Ouais. Donc, c'est-à-dire en quelque chose de quantifié. Et surtout qui est fongible, c'est-à-dire que j'évalue mon empreinte carbone de telle ou telle manière, et je me en même temps, c'est ça aussi peut-être que là il y a quelque chose entre le vice et la vertu, je m'accorde à moi-même des indulgences dans la mesure où mon empreinte carbone pour telle dans telle sphère est basse, alors peut-être je peux, puisque je n'ai pas de voiture, voilà, peut-être que je peux prendre l'avion ou vice-versa. Et donc il y a cette espèce de commensurabilité généralisée voilà, que nous activons à tout moment dans nos actes de consommation et qui sont donc, si vous voulez, une manière de porter à un autre niveau la manière même qu'a le marché de fonctionner. C'est-à-dire que nous produisons ou nous adoptons des formes objectives intellectuelles qui sont celles du marché.
Oui, mais je me demande comment on peut faire autrement. J'ai encore plein de questions, mais j'aimerais faire réagir Dany Robert Dufour peut-être à cette réflexion d'Estelle Ferrarez. Vous aussi, les grandes annonces éthiques du marché suscitent... vous les regardez avec une franche ironie.
Oui, je suis sur des positions extrêmement proches. Je crois en effet que ce marché de la vertu est quelque chose qui est à l'origine même du capitalisme. Excusez-moi, mais si je devance un peu les choses, mais je reviens
sur Mandeville.
Il parlait par exemple, Mandeville, de la politique de la flatterie. C'est-à-dire qu'il faut flatter les gens pour leur dire qu'ils sont vertueux, non pas parce que les gens sont effectivement vertueux, mais parce qu'en leur disant qu'ils sont vertueux, ils vont pouvoir se comporter comme s'ils étaient vertueux.
Donc avec une bonne conscience, on pourrait dire.
Voilà, il y a là un marché de la vertu qui est flatté depuis les origines du capitalisme. Soyez vertueux, et les gens modèrent d'une certaine façon leur passion, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas entrer dans la compétition égoïste, généralisée et sauvage du marché, cela on le recommande donc d'être vertueux et de participer quand même au fonctionnement, selon les modalités que vous venez de dire, selon les fonctionnements même du marché.
J'ai quand même une question. Bien sûr, on ne va pas faire les enfants de cœur, hein. Le marché il cherche le profit, c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même en lui mettant la pression qu'aujourd'hui on n'a plus le travail des enfants dans les pays démocratiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'ait nulle part dans le monde. Enfin, en France, on ne peut plus faire travailler les enfants. Peut-être que c'est avec le même genre de pression politique qu'on traitera moins mal la nature, d'autres populations, etc. Je sais bien que je viens moi-même d'employer un vocabulaire quantitativiste, moins mal. Mais c'est déjà pas mal. Vous voyez ce que je veux dire, Estelle Ferrarez ? Comme vous, j'aimerais que tout soit formidable, qualitativement, qu'on soit dans un autre monde, mais être pied à pied dans une lutte avec le caractère prédateur du capitalisme pour l'obliger à être moins méchant, je fais exprès d'employer ces mots, voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous répondez, alors, Estelle Ferrarez ?
Là, peut-être... ce à quoi vous avez fait allusion sur cet effectivement exercice réussi de domptage des formes les plus brutales du capitalisme, notamment le travail des enfants. En fait, vous avez fait allusion à des lois. Vous avez fait allusion à une logique vraiment politique, c'est-à-dire quelque chose qui venait des institutions. Moi, ce que j'essaye de défendre autour de cette critique de la consommation éthique, c'est le fait que le problème est que nous essayons de partir du marché et de considérer qu'avec le marché, nous pouvons réformer le marché.
Ah, c'est ça. C'est censé que s'il y va tout seul pour s'adapter à une demande morale, en quelque sorte... ça ne marchera pas, c'est une illusion.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le marché, comme je disais tout à l'heure, c'est ce mot un peu compliqué que j'ai employé, qui est autopoïétique, en fait, il a la capacité à faire dérailler n'importe quelle intention morale qu'on lui apporterait. Donc, de toute manière, tenter de se dire je vais progressivement, en me mettant avec d'autres, grâce à mes achats réalisés de manière segmentée devant la caisse, peut-être modifier quelque chose, ça, je pense que c'est nécessairement destiné à échouer.
Ce qui est très différent. Vous allez très loin, hein. Je vais vous lire quand même, je vais lire des pages de vous dès la page 13-14. Moi, j'étais sidérée, hein, de la radicalité de votre thèse. De même, vous-même, écrivez-vous, vous veniez de faire un développement, les énergies renouvelables s'ajoutent aux énergies fossiles, quelle concurrence, au lieu de les remplacer. Puisque les ampoules économiques demandent moins de courant que les modèles à incandescence, eh bien on en installe davantage. Les économistes parlent d'effet rebond. La réduction de l'empreinte carbone, précisez-vous, qui est déclenchée par l'immobilisation pandémique du monde, est balayée par l'essor gigantesque de la consommation d'énergie par les outils numériques. Et vous ajoutez encore, l'usage de couches lavables pèse lourdement sur la consommation d'eau et sur l'ordre du genre. Ça, on va peut-être en parler. Le développement de la viande synthétique, ajoutez-vous encore, à partir de cellules et de protéines produites artificiellement afin d'éviter toute cruauté vis-à-vis des animaux, pourrait bien peser défavorablement sur l'empreinte écologique d'un repas. Ça veut dire que vos consommateurs vous dites, bah écoutez, mangez votre viande telle qu'elle était, continuez avec vos couches en plastique et en fait, vous ne ferez pas plus mal que ce qu'on vous propose.
En tout cas, ça n'est pas le type de critique du capitalisme qui sera efficace. Qu'ensuite, on se sente mieux, et j'allais dire, et moi compris, c'est évident. Mais je pense vraiment... En fait, mon point de départ, c'est de dire, regardez, toutes ces observations que j'ai collectées ici, je suis sûre que vous avez fait, que la plupart d'entre nous avons fait exactement les mêmes. C'est-à-dire que, en permanence, même les médias relèvent que, je ne sais pas, le développement de la voiture électrique, donc en réduisant la consommation de certains types de combustibles, a créé des désastres écologiques en raison du type de minerai, le lithium dont ces voitures ont besoin, etc., etc. Donc, en fait, il existe pléthore d'exemples dont nous sommes tous, y compris lorsque nous pratiquons la consommation éthique, parfaitement conscients. Donc, moi, mon point de vue, c'était ça. C'était partir de ça et se dire, et si on prenait au sérieux, tout s'est raté. Et si finalement, c'était pas simplement qu'on n'avait pas fait assez bien, qu'on n'était pas suffisamment vertueux, qu'en essayant mieux, avec un savoir davantage informé, eh bien, nous réussirions. Et si peut-être que là, ça nous disait quelque chose sur la nature même du marché. C'est-à-dire que toute tentative va nécessairement, comme je le disais tout à l'heure, dérailler.
C'est votre mot, oui.
Et donner lieu à d'autres types de travers, d'autres types de dommages. C'est-à-dire réparer un dommage par le marché va en produire d'autres, précisément, peut-être, parce qu'il y a donc toute une logique de l'accumulation du profit qui fait que nos intentions morales, encore une fois, qu'on injecte, sont recodées.
Dany Robert Dufour, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il n'y a que la loi qui peut contraindre le marché et éviter que de nouveaux vices viennent se greffer sur les annonces de vertu ?
Écoutez, je pense que la loi, dans son sens politique, est extrêmement importante pour contrer justement ce développement du marché qui, en dépit des butées, comme vous venez de l'expliquer, que le marché ne cesse de rencontrer, le marché ne cesse en même temps de trouver de nouveaux marchés en fonctionnant aussi bien sur une mobilisation vertueuse des individus ou supposément vertueuse des individus. Donc, par rapport à ce développement du marché, qui est un développement sans fin, puisque le marché ne cesse de créer de nouveaux marchés et d'épuiser à la fois les individus, la force de travail, la nature, les ressources générales, la seule possibilité, c'est effectivement de construire une loi politique qui instaure un certain nombre de butées pour ce fonctionnement infini du marché.
Alors, vous avez parlé tous les deux de prédation, de rivalité sans merci, voire de vice. Je voudrais illustrer vos propos et puis vous donner l'occasion de les approfondir en écoutant une série bien connue, un extrait de cette série Succession. Dans le premier épisode de la saison numéro 1, il y a ce moment où le père, après un séjour à l'hôpital, découvre que son fils aîné a cherché un nouvel investisseur et s'est bien trop couché devant celui-ci. L'extrait commence par une formule de reproche au fils qui vous ira droit au cœur, Dany Robert Dufour, puisque ce que dit le père au fils, c'est « tu m'as baisé ».
Alors donc, tu m'as baisé.
J'ai changé d'avis, c'est tout.
Quand ? Quand je t'écoute ? Parce que on dirait que tu m'as baisé.
Ça vient de moi. De moi et de moi seul. Je me demande juste si tu peux te montrer dur, Kendall.
Dur ? Non, mais tu plaisantes. J'ai passé une putain d'année à Shanghai.
J'ai entendu dire que le gars du site internet t'a parlé comme une merde et que t'as pas répliqué.
Non, c'est pas un site. Et je me suis montré très professionnel.
Tu te serais montré faible. T'as évité le conflit.
C'était pas le concours de celui qui a la plus grosse dans le pantalon, ok?
Il paraît que tu t'es plié en quatre pour lui.
Quoi? Que j'ai quoi?
Tu t'es plié en quatre et il t'a baisé.
Eh bien, non, en réalité.
Je vais te dire, t'as sûrement lu des tas de bouquins qui parlent des entreprises, gérer ceci et cela. Mais tu sais quoi?
Quoi?
C'est parfois le concours de celui qui a la plus grosse dans le pantalon.
Oh, d'accord, je vois, alors c'est ça. Oui, j'aurais dû gueuler sur un mec, mais je l'ai pas fait, donc tu balais de la main 18 mois de travail acharné. Alors dis-moi, quand seras-tu prêt à te retirer?
J'en sais rien.
Arrête, t'es pas sérieux là?
C'est ma putain d'entreprise.
Le père apprend donc au fils dans Succession qu'il faut faire peur bien davantage à tous les potentiels partenaires qui en réalité sont véritablement à penser comme des ennemis. Finalement, on peut se dire qu'il n'a pas si mal enseigné cette leçon à ses enfants tant ces derniers sont prêts à s'entre-dévorer pour lui succéder, d'où leur perplexité lorsque leur père leur annonce ceci.
Oh, j'oubliais, comme je l'ai évoqué avec Kendall... En dépit de ce qu'on entend et tout bien considéré, je m'accorde encore quelques années.
En tant que...
Je reste en place. En tant que président, directeur, général.
Bah, quoi, tu quoi?
J'ai pas été assez clair, à moins que t'aies pas écouté, comme toujours.
Mais tu vas pas... Quoi,
c'est pas un drame. Je pars pas encore, mais on verra les détails ensemble.
Tu m'en avais pas parlé.
On va annoncer que t'es en pole position pour reprendre le flambeau quand le moment sera venu et que...
Quand le moment sera venu.
Ok, allons déjeuner.
Attends.
Oh putain.
Je sais pas ce qui te fait rire dans ce merdier.
Ça me fait pas rire, mec. Quoi?
Merde. C'est quoi ce bordel? Il a pas le droit de changer de... Pas vrai? Il va complètement discréditer l'entreprise. Et puis, est-ce que vous l'avez trouvé comme d'habitude?
Oh, je t'en prie. Kendall, il est comme ça, on le sait. C'est.
Moi, je m'en vais. Désolé, c'est pas du tout mon truc. Peu importe ce que vous décidez. Allez-y, je suivrai.
Connard,
reste!
Non, je vous laisse faire. Je refuse d'être mêlé à ça. Je préfère vite partir. Je suis comme l'eau. Je file.
Dany Robert Dufour, Succession, cette série assez incroyable qui, paraît-il, reprend un peu l'histoire de Rupert Murdoch et de sa famille, illustre parfaitement le goût du pouvoir, mais dans ce qu'il a de plus prédateur, et il y a une dimension perverse dans à peu près chacun des personnages de cette famille.
Oui, absolument.
Vous l'avez vu?
Je n'ai pas vu, mais...
Ah, mais il faut, hein. Avec votre histoire de perversion, c'est impressionnant.
Ce que vous venez de dire, je vais absolument le voir. Oui. En tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement ce fonctionnement que vous avez nommé pervers. Et parce que quand nous sommes dans un fonctionnement classique, c'est-à-dire un fonctionnement névrotique, en fait, il y a... une puissance pulsionnelle qui est là, mais il y a quelque chose qui le limite aussi bien dans le surmoi des individus. Tandis que dans le passage à une économie qui fonctionne sur la perversion, alors là, il n'y a pas de coupure par rapport à cette libération pulsionnelle. Et elle doit pouvoir s'exprimer jusqu'au fait de, si vous me permettez ce terme, de baiser son prochain.
Bah oui, voilà. C'est votre titre. Et
donc,
qu'est-ce qu'ils disent dans Succession ?
D'en profiter au maximum et donc de capitaliser au maximum sur une pulsion d'avidité que l'on peut avoir.
Alors là, évidemment, on touche au fond de votre thèse, qui est que peu d'auteurs ont touché cette perversion au fond du capitalisme. Vous dites même que le grand auteur qu'il a vu tout de suite, c'est Mandeville, et qu'il a été recouvert, étouffé par d'autres. Alors je voudrais qu'on retrace très rapidement cette histoire. Bernard de Mandeville a un nom français, mais en vérité, il était hollandais.
Il est hollandais, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'un huguenot français,
oui,
qui s'est exilé dans les provinces unies, c'est-à-dire en Hollande. Mandeville, né en 1670, fait des études de médecine et de philosophie à Leyde,
oui,
et part en Angleterre en 1693, où il s'installe comme médecin des passions.
Oui.
Médecin des passions
c'est
de l'âme.
Dire,
et c'est pour ça que je trouve extrêmement intéressant donc le fait qu'il se soit intéressé à ce qui se passait dans cette première révolution industrielle du point de vue de l'économie psychique.
Donc c'est vraiment, pour vous, c'est un des tout premiers psys de l'histoire.
Ah, oui.
Et qui est aux premières loges, puisque que ce soit en Hollande ou à Londres, on est à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, au cœur de l'entreprise capitalistique.
Absolument. Et ce qu'il note là, c'est un changement dans l'économie pulsionnelle, dans l'économie psychique, c'est-à-dire que les passions ne devraient plus être réprimées, mais devraient être libérées, et cela serait bon pour tout le monde. C'est pour ça qu'il écrit cette fable des abeilles.
Alors reprenons la thèse, parce que c'est compliqué, la fable des abeilles, elle a connu plusieurs éditions, et à la fin c'est devenu quand même un assez gros volume. Si j'ai bien compris, il y a une édition de 1714, il y en aura une autre en 1723, et bon, ce qu'il raconte, mais vous allez me corriger puis préciser, c'est que bon, il y a des vices dans la ruche, des vices qui s'expriment, qui sont plus ou moins déchargés, et puis à un moment donné, dans cette fable, on décide, alors je ne sais pas si c'est la reine, ou vous me direz, on décide de rendre les abeilles vertueuses, de faire le bien autour d'elles au lieu d'être dans la prédation. Et là, on ne produit plus rien, ça ne marche plus du tout.
Alors, c'est pas on décide, c'est les habitants de la ruche décident. Parce que la fable des abeilles est organisée en deux parties. Donc, dans la première partie, chacun est un peu voleur sur les bords et est lancé dans une compétition, pour reprendre ce terme, une compétition sauvage avec les autres. Par exemple, le juge au tribunal prend une petite commission pour arranger les affaires d'un tel plutôt que les affaires d'un autre. Le maçon met un peu plus de sable que de ciment dans ses constructions, etc. Chacun est un peu voleur. Et nous dit Mandeville, ça marche très très bien. Parce que, justement, cela crée... Pourquoi ça marche très bien ? Parce que cela crée des poches de richesse dans la société, et que ces poches de richesse dans la société doivent bien finir par être utilisées pour faire marcher le commerce.
Donc rien à voir peut-être avec les abeilles réelles, qui sont
coopératrices. Non, bien sûr, elles sont très coopératives.
Mais alors, du coup, voilà la question que je voudrais vous poser. Au moment où démocratiquement, si je vous suis, on décide de fonctionner plus vertueusement, plus rien ne marche, la production s'effondre. Mais est-ce que ce n'est pas une réponse à ce que vous avez dit tous les deux en début d'émission ?
Oui.
Il faut de la loi pour réguler le capitalisme et sa prédation. Mais si je vous suis, alors on risque, si on est mandevillien, de dire qu'on risque d'avoir une chute gravissime de la production.
C'est effectivement la thèse de Mandeville. Mais c'est pas un « on », c'est pas la loi qui décide de faire devenir vertueux. Les abeilles, ce sont les abeilles qui les habitants de la ruche, donc où la ruche était riche, mais qui elle était riche au prix donc de cette libération des vices privés, et donc cette ruche devient, les habitants de la ruche deviennent coupables, ils se sentent coupables justement d'escroquer toujours un petit peu les autres pour satisfaire leur avidité, et c'est eux-mêmes qui décident de devenir vertueux.
Mais vous êtes d'accord qu'avec de la loi ça marcherait pas mieux du point de vue de Mandeville? Ce qu'il faut, c'est laisser faire le vice.
Bien sûr, mais alors justement là où Mandeville est extrêmement intéressant, c'est que il montre qu'il y a une partition psychique dans les populations, parce qu'il y a ceux qui peuvent participer à la compétition, ce sont ceux qui n'ont pas de frein pour leur pulsion d'avidité, et puis il y a ceux qui sont retenus par des dispositifs moraux, justement, qui les empêchent de participer à la, à la compétition. Et c'est là qu'intervient un autre texte de Mandeville, lui aussi publié en 1714, avec la fable des abeilles.
À l'intérieur, c'est ça ? Le texte
Non, c'est un autre texte qui s'appelle « Les origines de la vertu morale ».
Oui.
Parce que dans ce texte, il se demande que faire avec la vertu des gens. Que faire avec cette vertu des gens qui empêche donc la ruche de se développer au maximum de ses possibilités.
Qu'est-ce qu'on fait avec la vertu ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur tenir un discours de la flatterie, leur dire, ils veulent être vertueux, eh bien il faut leur dire, performativement, vous êtes vertueux, de façon à ce qu'ils adoptent un certain nombre de comportements moraux, de façon à ce qu'ils soient gentiment exploités par ceux qui n'ont pas ces sentiments moraux.
Donc l'origine de la vertu, c'est peut-être un peu nietzschéen rapide de dire ça, mais c'est la faiblesse.
Exactement.
C'est ça que vous dites?
Exactement, exactement.
D'accord. Ce sont des gens faibles, en fait, qui n'assument pas le vice constitutif de la compétition économique.
On dirait pas faible, ça c'est dans le discours nietzschéen, peut-être on dirait faible. Dans le discours du médecin des passions de l'âme, on dirait, en termes actuels, on dirait névrosé.
Ou hyper-surmoïque, c'est-à-dire avec un surmoi terrible
névrosé avec un surmoi qui les empêche donc
d'accomplir
un certain nombre de pulsions d'avidité.
Alors voici un extrait de la fable des abeilles elle-même et non du texte que vous venez d'évoquer mais qui est un magnifique commentaire.
Oui.
Donc dans la fable des abeilles, Bernard de Mandeville défend le vice comme étant la source d'une sorte de bien commun en termes de richesse.
Ne devons-nous pas le vin, cette excellente liqueur, à une plante dont le bois est maigre, laid et tortueux? Tandis que ses rejetons négligés sont laissés sur la plante, ils s'étouffent les uns les autres et deviennent des sarments inutiles. Mais si ses branches sont étayées et taillées, bientôt devenues fécondes, elles nous font part du plus excellent des fruits. C'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux, alors que la justice l'émonde, en ôte l'excès et le lie. Que dis-je ? Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Dany Robert Dufour, est-il vrai que des libéraux ont été gênés par la radicalité de Mandeville? Vous dites, vous, que Adam Smith, bon, il était au bord de dire la même chose que Mandeville en affirmant qu'il y a une main invisible malgré les intérêts particuliers qui ne pensent qu'à eux, une sorte de main invisible du marché produirait des bonnes choses, ça ce serait très mandevillien. Mais après, il aurait hésité, c'était quand même un penseur de la morale, de la sympathie, de la coopération. Au fond, Mandeville a gêné, y compris ses propres alliés potentiels libéraux.
Mais oui, parce que Mandeville dit tout. Mandeville dit tout, tout simplement parce qu'il dit là, ce qui nous gêne dans une société pour qu'elle devienne riche, c'est la vertu de ces gens qui sont, il ne dit pas encore névrosés, mais qui sont retenus par un certain nombre, par la vertu morale, et qui les empêchent donc de participer à cette compétition générale. Donc il faut se libérer de ces gens vertueux de façon à ce que ils soient mis dans une position où ils servent le projet de richesse qui sera repris effectivement par Adam Smith. Mmh. La richesse des nations, le programme est clair. Ce qui gêne Adam Smith, c'est justement la radicalité de Mandeville qui dit tout d'une certaine façon.
En même temps, il le dit aussi avec sa main invisible. Simplement, par ailleurs, il y a d'autres textes, notamment sa théorie des sentiments moraux en 1859, où il dit qu'il y a autre chose dans les êtres humains. Mais sur le marché, il est assez d'accord, vices de Mandeville.
Il reprend les thèses mandevilliennes. Le seul problème entre la richesse des nations et la théorie des sentiments moraux, c'est que l'un fonctionne sur donc le self-love.
Oui.
Le self-love qui est le moteur donc de la production de la richesse dans la société, alors que les sentiments moraux fonctionnent sur l'altruisme, sur la promotion de l'altruisme. Oui. Or, il n'y a pas chez Adam Smith d'articulation de l'égoïsme et de l'altruisme. C'est ce que les Allemands appelaient Das Adam Smith Problem. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à articuler les deux.
Bon, ben là, et donc, problème de vie.
Exactement. Et là, tout se passe comme si, donc, Adam Smith avait introduit la notion d'altruisme pour calmer le jeu et dire, écoutez, non, ne vous en faites pas, nous ne sommes pas aussi terribles que ça, nous ne sommes pas pour la libération des vices privés comme ce licencieux et ce Mandeville, oui, dont on avait d'ailleurs transformé le nom, il faut bien le dire, Mandeville était devenu Mandivol, l'homme du diable.
Donc c'est à ça que je voulais venir, parce qu'il y a une histoire de théologie. Donc je dirais le problème Mandeville, oui, ou Mandivol, oui, c'est que ce n'est pas qu'une description anthropologique. Derrière, il y a un présupposé théologique. C'est par le mal absolu se déchaînant, qui est un vieux topos oui, théologique, par le mal absolu se déchaînant qu'arrivera le paradis sur terre.
Mais
c'est comme ça que vous exprimez. Vous dites même que Dieu va jouir.
Absolument, exactement. Ça, c'est une notion importante, parce que avant, que se passait-il ? On s'en remettait aux saints pour promouvoir la vertu dans la société. Et Mandeville, avec son ironie et son cynisme, dit, d'une certaine façon, dit, mais qu'est-ce qui vous rapporte les saints ? Est-ce qu'ils vous amènent la richesse ? Non, ils ne vous amènent pas la richesse. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est de parier sur les pires d'entre les hommes, worst of them dans le texte, ouais, hein, les pires d'entre ouais, les hommes, parce que ces pires d'entre les hommes ne vont pas hésiter à s'enrichir par tous les moyens possibles, s'enrichir personnellement, de façon à créer de la richesse qui ensuite ruissellera, je reprends ce terme, puisque mmh, c'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment, le ruissellement ruissellera ensuite sur la société. Donc il faut parier sur les pires d'entre les hommes, il faut parier sur les pervers. Donc effectivement, c'est une inversion théologique importante. Parce que là, on a un pari non plus sur Dieu, mais un pari sur, de fait, le diable.
Voilà, alors ouais, je voudrais maintenant savoir ce que Estelle Ferrares pense de cette analyse de Mandeville, et de Mandeville lu par Dany Robert Dufour, qui insiste sur cette perversion. Est-ce que vous allez jusque-là à propos du capitalisme ?
Alors, bon, il y a un certain nombre de choses qui convergent, bien sûr, et moi, je pensais à une phrase qu'utilise mon univers théorique, qui est celui de l'école de Francfort, que je vous allusion tout à l'heure, dans la dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer décrivent Ulysse comme le premier des capitalistes, et en fait, la raison pour laquelle ils le décrivent comme ça, c'est parce que en fait, ils disent qu'il est le premier à mettre en action l'axiome, ce qui va devenir donc l'axiome du capitalisme, c'est-à-dire oui, duper ou périr. Donc, ce qui, je pense, oui, est une façon correcte de dire, c'est de baiser le prochain, comme oui, voilà, c'est un peu.
C'est-à-dire que si je baise pas le prochain, absolument, c'est moi qui vais te baiser. C'est pour ça. Le dire, excusez-moi, mais exactement comme le dit Dany Robert Dufour. Et donc, en gros, Ulysse, sur son mât, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre le chant des sirènes, je ne veux pas périr en allant les rejoindre. Eh bien, je mets en œuvre une ruse. C'est moi qui vais les avoir, les sirènes. Je ne vais pas les entendre. Oui, grâce à mes bouchons d'oreilles.
C'est ça, c'est ça. Donc effectivement,
des bouchons d'oreilles des autres, mais moi je vais être ligotée, pardon, c'est pas ça l'histoire. Je vais être ligotée, ce qui fait que je vais pouvoir les entendre sans leur succomber. Pardon, mais c'est pour tous les autres compagnons qui va leur mettre des bouchons d'oreilles. Donc c'est cette ça, vous pensez que c'est le fond de la logique capitaliste ?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de subjectivation, de modalités de subjectivation qu'on va retrouver en différentes périodes et qui accompagnent peut-être le capitalisme. Mais encore une fois, moi je ne pense pas qu'on puisse expliquer le capitalisme ni par un fond anthropologique, ni même d'abord par des ressorts psychologiques.
Mm-hmm. Moins théologiques, puisqu'il y avait cet aspect même qu'on peut reprendre ou non de Mandeville. Mais alors moi j'ai une question. Il y a un livre important que vous citez dans votre ouvrage, celui de Karl Polanyi de 1944, La Grande Transformation. Vous situez par rapport à ce livre. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que disait ce livre ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez à en dire ?
Oui, alors effectivement, c'est un ouvrage qui a eu un grand succès et connu une nouvelle actualité il y a une dizaine d'années à peu près en philosophie. Donc, Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, tente de montrer comment est-ce que, donc, au XVIIIe, XIXe siècle, le marché se désencastre de toute une série de logiques et ou de réalités institutionnelles sédimentées autour de lui, qui en quelque sorte mettaient des limites et qui avaient toujours été là sous une forme ou sous une autre. Et ça va des normes morales, en passant par peut-être des formes de lois, de règlements, mais aussi des considérations tenant à la façon de fonctionner des communautés. Et donc il y avait, si vous voulez, un encastrement dans toutes les sociétés, jusque-là, oui. On a trouvé, il y avait cet encastrement.
Par la loi, justement.
Notamment, mais il parle pas que de la loi.
Il parle
aussi
la morale, mais enfin, tous les trucs qui marchent pas, selon Denis Robert Dufour et Mandeville. Mais bon, ok,
c'est tout continue. À fait. Et donc, à un moment donné, le marché se désencastre, c'est-à-dire, en fait, se rend, pour le dire...
S'autonomise,
se rend autopoétique, encore une fois, pour revenir au mot que j'utilise, que j'aime bien. Et donc, c'est-à-dire, devient complètement imperméable à tout ce qui n'est pas sa propre logique, et donc notamment à toute cette ce grumeau normatif, hein, voilà, oui. qui le contraignait un peu, et ce qui va provoquer donc toute une série de réactions qui, d'après lui, donc finiront par aboutir au nazisme, en fait, et à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à un moment donné il va y avoir un mouvement donc de protection, au sens où un certain nombre de forces situées dans les classes sociales, situées peut-être aussi dans les communautés plus traditionnelles, éventuellement qui vont supposer de mobiliser l'État, donc ils vont tenter de réencastrer.
Et la lutte. Et vous pensez que c'est possible, vous, aujourd'hui, parce que votre livre donne l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose contre le marché, mais en même temps, dans notre discussion, vous avez dit, il y a la loi. Donc on peut le réencastrer autoritairement, par une loi ferme.
Par une loi ou par des institutions.
On peut, vous pensez.
Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que la seule manière de le dompter, de lui mettre des limites, c'est quelque chose qui va passer par un ordonnancement collectif, pensé comme collectif dès le départ, et c'est alimenté par les institutions.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Robert Dufour ? Le marché sera-t-il réencastrable ?
Alors, je trouve que la thèse de Polanyi est extrêmement importante et extraordinairement éclairante sur l'émergence qui a amené finalement au néolibéralisme, même si c'était le néolibéralisme d'avant-guerre. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est un point que vous n'avez pas mentionné à propos de Polanyi, c'est à partir de ce qu'il appelle donc les trois valeurs principales, donc qui sont l'argent, le travail et la terre, qui sont ces marchandises qui n'étaient pas des marchandises avant, mais qui étaient des valeurs sur lesquelles on s'appuyait, et qui sont transformées par le capitalisme en marchandises fictives. Et donc là, il y a une sorte de prolongation de la thèse de Mandeville chez Polanyi, parce que ces marchandises sont d'une certaine façon perverties pour devenir des marchandises, de façon à ce qu'on transforme le travail pour pouvoir vendre et acheter le travail, qu'on puisse donc avec la terre faire ce qu'on en fait maintenant, c'est-à-dire l'exploiter de façon radicale, et donc avec l'argent, pour que l'argent devienne une marchandise, qu'on puisse aussi, non plus un équivalent général, mais qu'on puisse donc vendre et acheter de l'argent. Donc là, il y a une perversion de ces valeurs qui étaient des valeurs originales, et qui ont à voir avec ce mouvement général de perversion qui part de Mandeville et qui se continue d'une certaine façon chez Polanyi, même si Polanyi n'appréciait pas beaucoup Mandeville.
Mais j'ai l'impression que là, vous dites tout simplement que c'est Marx qui avait raison.
Oui.
Que le fétichisme de la marchandise finit par produire le fétichisme de ce qui achète la marchandise.
Ben, bien
et donc
sûr,
le fétichisme de l'argent. Et donc
sûr.
Le vrai continuateur de Mandeville dans la modernité intellectuelle, c'est Marx.
C'est Marx, tout à fait.
Mais il pensait quand même que Mandeville critiquait tout ça.
Oui, alors.
C'est ce que vous écrivez. Hein.
Oui, donc.
Il a eu tort.
La description. il a eu tort. La description de Mandeville du fonctionnement du capitalisme est tellement forte que Marx pense qu'il en fait une critique de ce fonctionnement de la...
Il pensait ça, que Mandeville était critique.
Et Marx se trompe à l'évidence. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Marx écrit un texte qui est un texte mandevillien, dont j'ai oublié comme ça le titre, mais qui parle justement de ces donc lieux où le vice peut devenir vertu. C'est un texte qui n'est pas dans la partie principale du Capital, que je mentionne dans mon propre texte. Mais le véritable continuateur de Mandeville, avec justement cette notion de fétichisme de la marchandise et de fétichisme de l'argent, c'est absolument Marx.
Mais Marx, on pense en plus la compétition autour de l'appareil de production, l'idée qu'il y a de la rivalité, mais il pense la classe, il pense qu'il y a quand même des choses qui unissent certains groupes,
oui.
Qui qui ne cherchent pas à se détruire individuellement, ils ont des intérêts communs, c'est la lutte de classe.
Bon, oui, tout à fait.
C'est d'ailleurs très fragile, parce que quand une classe dominée renverse la classe dominante avec l'aide de ses autres copines, si je puis dire, les classes dominées, après, dit-il, il y a une nature mesquine des classes, dans le texte de 1844, pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, la classe qui renverse la précédente va se retourner contre ses anciennes alliées. Donc il y a du vice, y compris dans le fonctionnement des classes chez Marx. Ma question est celle-ci. Si on a une telle sensibilité au vice et à la rivalité autour du vice, comment peut-on imaginer qu'un jour l'humanité fonctionne autrement ?
Ah, mais moi je ne suis pas sûr qu'elle puisse fonctionner autrement.
Et donc la partie de Marx qui pense un après, vous n'y croyez guère ?
Ben écoutez, à partir du moment où nous sommes dans notre anthropologie même, dans notre constitution subjective, dans une position où nous sommes à la fois mus par des passions, par des pulsions, qui sont incontrôlables, et à la fois objet de la loi, comme vous le dites bien, ce conflit entre le fonctionnement pulsionnel et le fonctionnement de la loi n'est pas prêt d'être résolu.
Alors que Marx pensait qu'on dépasserait la régulation par la simple loi, qui pour lui était assez vaine.
C'est ce que je ne.
Et là, vous n'êtes pas marxiste.
Sur ce point, je ne suis pas marxiste. Je suis mandevillien. c'est-à-dire que je crois que la constitution subjective de l'homme, qui est évacuée par les économistes en général. Parce que les économistes privilégient ce qu'ils appellent le calcul égoïste des acteurs, des agents. Oui. Or, il n'y a pas qu'un calcul égoïste. Le calcul égoïste, c'est celui qui donne effectivement la compétition. Mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas participer au calcul égoïste, et ça, c'est effectivement Mandeville qui l'a découvert. C'est-à-dire le fonctionnement qui est un fonctionnement inhibé par rapport à ses pulsions.
Donc inhibé, réprimé, c'est votre
inhibé,
dernier
réprimé,
mot.
Exactement.
Et non pas et peut-être penser un jour un autre fonctionnement possible pour les humains comme Marx l'a pensé.
C'est ça, on n'est pas prêt de sortir de cette contradiction.
Vous êtes d'accord, Estelle Ferrarez, il n'y a que la répression de ces pulsions vicieuses ou problématiques par la loi qui peut éventuellement fonctionner. L'idée d'une ultime révolution qui fera fonctionner le système économique autrement, vous n'y croyez pas ?
Ah si.
Ah, alors on finit sur un désaccord, j'adore ça.
Je ne pense pas que la loi puisse empêcher, enfin, ou est pour finalité de brimer certains instincts ou pulsions, précisément parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit les pulsions qui soient à l'origine de l'accumulation de capital, en fait. Je ne pense pas que ce soit fondamental, je pense...
Vous n'êtes pas Mandeville.
Absolument pas.
Okay.
En fait, je pense même que le capitalisme fonctionnerait relativement bien, même en l'absence de grands méchants. Justement, l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, ces gens surfent, j'allais dire, à titre privé personnel et s'enrichissent sur la façon de fonctionner le capital. Mais je pense vraiment que le système, et notamment le marché, a une force en soi qui fait que, encore une fois, il peut se nourrir également de vertu, comme il peut se nourrir de vice.
Pas longtemps, tourne autour de l'eau.
C'était Argent trop cher par téléphone en 1980. Merci beaucoup Dany Robert Dufour et Estelle Ferrarez pour vos analyses sur le capitalisme, la compétition en son sein et peut-être le mot est faible. Vous nous avez aidé à préciser votre analyse et nos réflexions à propos du capitalisme. C'est l'heure à présent de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'idéal de soi, de l'amour propre, de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément éloignées du problème de la compétition mais qui vont l'engager aussi dans d'autres voies. Écoutez, c'est le pourquoi du comment.
Pourquoi tient-on à sa réputation ? Dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, il y a une scène qui nous a toujours frappés. C'est cette scène où Rousseau décrit un homme qui va bien, dont tout va bien. Il est au soleil, disons, il est bien nourri, il est dans un lieu merveilleux. Et puis tout à coup, il reçoit une nouvelle, un article d'un journal où on dit du mal de lui. Et là, tout s'écroule, il devient malheureux et même méchant, il est obsédé, et Rousseau l'a vécu, obsédé par cette mauvaise image de lui, transportée par un journal, obsédé par sa mauvaise réputation. Et Rousseau se demande, au fond, pourquoi attache-t-il tant d'importance à ce qui n'est rien ? C'est du vent, ce sont des mots sur un journal, c'est de l'image de lui-même dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Une image, il pense à la façon dont les autres pensent à lui, il se tourmente pour quelque chose qui semble n'être rien. Déjà, l'image de soi, en quoi affecte-t-elle mon propre bonheur, et l'image de moi-même dans l'esprit d'autrui et dans l'esprit public, dans cet article de journal, dans cette rumeur publique, en quoi devrait-elle venir détruire ce bonheur présent, cette satisfaction d'être là au soleil avec des amis, dans une condition vitale qui devrait maintenir ce qu'on appelle le bonheur. La réputation est en effet un mystère. Elle tient non seulement à une dimension sociale, au fond, plus ou moins bonne ou mauvaise, quelque chose qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, devient évidemment absolument fondamental. On parle même de capital réputationnel que les uns peuvent augmenter sur Facebook et les autres diminuer. On vous like, on vous dislike, on vous unlike. Et donc la réputation devient quelque chose de très important socialement. Mais si c'est important socialement, c'est peut-être parce que c'est important moralement. C'est la façon dont moi-même je me rapporte à l'image de moi-même et dont j'en fais une partie de moi-même ou pas, et peut-être encore plus vertigineusement, au fond, y a-t-il une dimension métaphysique ou les philosophes diraient ontologique, c'est-à-dire une dimension qui tient à mon être lui-même. Est-ce que j'existe, au fond, tout seul ? Est-ce que mon existence même ne tient pas à la façon dont j'existe dans le regard d'autrui, pour le regard d'autrui ? Est-ce que je pourrais exister si tout le monde me trouvait négligeable ou méprisable ? Si la mauvaise réputation, qui est le titre d'une chanson merveilleuse de Georges Brassens, n'était pas seulement une sorte de norme sociale imposée du dehors à des êtres dont le courage, dont l'existence, dont l'essence même serait indépendante, ne pourrait pas être salie, ça glisserait comme de la bave d'un crapaud sur les plumes d'un canard. Eh bien, est-ce que mon existence ne serait pas plus profondément liée à l'image que j'ai chez autrui, à l'image de ce moi, de ce petit moi que je suis dans le moi des autres, à son agrandissement, son rétrécissement, son existence même. Il y a donc dans la question de la réputation un problème très profond, un problème social et politique qui aujourd'hui prend des dimensions extrêmes, puisqu'on voit bien que du harcèlement réputationnel peut conduire jusqu'à des suicides, et pas seulement chez les adolescents, mais il y a évidemment aussi, et ce suicide le montre bien, des problèmes métaphysiques, des problèmes ontologiques. Tous les philosophes ont tenté de préserver le moi du regard d'autrui. Mais peut-être y a-t-il des regards d'autrui qui nous ont protégés quand nous étions tout petits ? Peut-être est-ce l'amour des autres qui nous a permis d'être nous-mêmes ? Peut-être y a-t-il des images de nous-mêmes qui peuvent résister aux dégâts de la réputation ?
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou bien sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Carla Michel, Anna Feulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!